France Inter, il est 21h04 et tout de suite, Very Good Trip.
Et pour vous, mon enfant, cumel, saké, alcool de goyave, papaye fermentée?
Une larme de saké.
Non! Je vais te faire l'amour, petite fille.
Bon.
Extrait du magnifique Fichka Sayas.
Bah oui, c'est un de mes films préférés. Oui. Stéphane était au courant. Bah ouais, ça m'a fait quelque chose, évidemment. Écoutez, Mariam, après toutes ces nouvelles un peu tristes, on va avoir besoin, comment dire, peut-être d'un saké, ouais, non, oui. Ou d'un petit remontant dans un autre genre. Voilà, quelque chose qui vous exalte. Allez, c'est parti. Quelque part entre Bruce Springsteen et Arcade Fire, c'était signé par un groupe du New Jersey dont le nom n'est pas très connu chez nous, Bleachers. La chanson s'appelait Don't Go Dark. Alors, Bleachers, c'est un mot qu'en général on traduit par gradin, vous savez, comme les gradins d'un stade, un mot qui évoque une foule de gens réunis en plein air pour un événement joyeux, un match, un concert, enfin une célébration collective en général. Et ça va très bien avec la musique qu'on vient d'entendre qui me paraît être celle dont on a besoin en ce moment. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais après ces périodes éprouvantes d'isolement, télétravail pour certains, sorties impossibles ou restreintes pour tout le monde, on n'a qu'une envie, retrouver les autres et se sentir ensemble. Et cette chanson, ce nouvel album signé Bleachers, que j'ai écouté deux fois dans son intégralité, si c'est vrai, en faisant quelques exercices physiques, voilà, vous saurez tout sur ma passionnante existence, eh bien, ça m'a rendu l'élan, l'espoir, le courage qui parfois m'ont fait défaut durant cette période qui nous a tous plombés. Alors je vous parlais de Springsteen, c'est pas un nom que j'ai prononcé en l'air puisqu'on le retrouvera tout à l'heure comme invité dans un autre titre signé Bleachers. Et d'ailleurs Springsteen est une des sources d'inspiration de l'homme qui est l'architecte et le chanteur de ce groupe, guitariste aussi, un trentenaire new-yorkais du nom de Jack Antonoff. Un nom qui est avant tout connu des professionnels de la musique, puisque à New York, Los Angeles ou Atlanta, il a joué dans les années 2010 un rôle central dans les plus grands succès de la musique populaire aux États-Unis, évidemment également dans le monde, puisqu'il a coécrit et réalisé des chansons, des albums pour notamment Taylor Swift, chanteuse dont il est un peu comme le grand frère, Lana Del Rey, et puis aussi la très jeune néo-zélandaise Lorde. Et parallèlement, depuis une quinzaine d'années, Jack Antonoff donc chante, joue de la guitare et interprète ses chansons à lui, d'abord dans des groupes qui ont eu pas mal de succès, et puis il a commencé ça il y a 6-7 ans, Bleachers, c'est plutôt son affaire personnelle. Alors pour être honnête, j'avais jamais eu la curiosité d'écouter donc les productions personnelles de Jack Antonoff, mais une série d'articles m'a alerté et j'ai compris pourquoi on parlait autant de cet album de Bleachers. Les deux chansons de cet album, donc plutôt court, hein, m'ont emballé. Un album qui s'appelle Take the Sadness Out of Saturday Night, Effacer la tristesse du samedi soir. Un titre qui tombe à point nommé et qui tient ses promesses. 10 chansons qui forment un recueil aussi dense que percutant et dont la création et la réalisation semblent répondre à une sorte de nécessité intérieure. On en a perdu l'habitude. Alors vous êtes, j'imagine, nombreux à connaître le groupe Arcade Fire, un groupe où il y a presque autant de membres que dans une fanfare. Et quand on écoute Arcade Fire, on a l'impression que leurs chansons parviennent contre toute attente à s'élancer malgré tout le poids de tristesse et de découragement qui semble au début les lester et même parfois on dirait accabler ceux qui les jouent et les chantent et qui parviennent malgré tout ça à s'élancer. Et bien Bleachers c'est un peu pareil, ça a l'air énorme et pâteau mais ça finit par s'élever et par décoller. On sent aussi dans ces chansons que cette ambiance pleine de vie et de liberté qu'on pouvait capter dans un album comme le fameux London Calling de The Clash, resté 40 ans après sa sortie, un classique malgré sa générosité un peu brouillonne, et d'ailleurs peut-être à cause de celle-ci au fond. Comme Springsteen, né 35 ans avant lui, eh bien Jack Antonoff a grandi dans une banlieue du New Jersey, dans son cas c'est du côté de Bergenfield, c'est à une trentaine de kilomètres au nord de New York, de l'autre côté du fleuve. Alors que dire de lui ? C'était un collégien et lycéen lambda, fan de punk rock, avec des affiches de Star Wars dans sa chambre. Il jouait de la guitare et chantait avec insouciance jusqu'au jour où il a eu un choc dans sa vie, la mort de sa petite sœur à l'âge de 13 ans des suites d'une tumeur au cerveau. Alors Jack s'est réfugié dans la musique et c'est devenu pour lui une obsession. Alors il voulait absolument pas faire d'études, ses parents ont essayé de l'inscrire dans des écoles de musique mais chaque fois c'était pareil, il se souvient, il y avait, je le cite, un mec chauve avec un catogan qui me disait que mes chansons c'était de la merde. Alors voilà, donc ça l'a dissuadé, il a appris et il a fait tout seul et ça lui a plutôt bien réussi. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Sa rencontre avec Taylor Swift, qui l'a aidé à s'affranchir des conventions de la variété grand public, ont fait de Jack Antonoff un musicien très demandé. Alors, sur le site du NME, un hebdo anglais qui est désormais en ligne, hein, et d'où je tire la plupart de ses informations, Jack explique qu'il a eu une sorte d'illumination alors qu'il faisait une balade à vélo. Il s'est dit, au fond, le deuil de ma sœur, c'était devenu dans ma tête la source de tout et aussi la justification de tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Alors, explique Jack, j'ai compris pourquoi la musique de Springsteen me parlait autant, comme moi il vient du New Jersey, et dans ses chansons, eh bien justement, il y a toujours ce désir d'atteindre une joie qui semble toujours désespérée et hors d'atteinte parce que la vie est trop dure. Voilà. Tout de suite, on retrouve autre chose, le jeune groupe de Dublin, Inhaler, dont le chanteur Ellie Hewson n'est autre que le fils de Bono, bah oui, le Bono de U2. Et comme le dit drôlement Eli, hein, je crois qu'on dit, oui, si j'étais quelqu'un d'autre et que j'apprenais que le fils de Bono chantait dans un groupe, j'aurais envie que ce soit nul parce que ça m'énerverait trop. Mais bon, Inhaler est loin d'être un groupe nul, c'est pas nul du tout. Et d'ailleurs, le groupe qui sort son premier album à l'heure où je vous parle est un des groupes les plus populaires d'Irlande, pas loin de Fontaines D.C. ou de The Murder Capital. Deux groupes que vous connaissez très bien si vous êtes des fidèles de Very Good Trip, sur France Inter évidemment. Et quand on écoute cette chanson qui a donné son titre à l'album et qui s'appelle It Won't Always Be Like This, eh bien ça n'a rien d'étonnant parce que ça a du souffle et là aussi on sent l'influence de Arcade Fire.
Sur France Inter.
above it. Don't watch me down here. Let's just get hiking. Through the frozen window, I see a dark shape on the street. Are you the vampire? I feel a dark heart on the street.
Tout ce qu'il y a de plus simple, voire rudimentaire, qui nous vient de la ville de Brisbane, c'est le milieu de la côte est australienne, hein, une guitare sans aucune pédale d'effet, une basse électrique jouée sans la moindre virtuosité, une batterie réduite au minimum, c'est une grosse caisse, un tom médium, voilà, et deux cymbales. La chanson s'appelait In the Stone et le groupe qu'on vient d'entendre répond au nom de The Goon Sax, sax comme un saxophone. Voilà, The Goon Sax a démarré il y a un peu plus de 5 ans, alors que ses 3 membres étaient encore au lycée. Là, quand on jette une oreille à leur premier album qui est sorti en 2016, on a franchement l'impression d'entendre un de ces 45 tours pressés en 1981 à 200 exemplaires par une bande de potes dans une banlieue quelconque où l'on s'ennuie et ferme. Voilà, c'est vert, c'est fragile, la voix a un côté chanté, parlé, un peu aigrelet, on est suspendu quelque part entre le charme et le mal-être, une certaine adolescence en somme. J'ai appris en tombant sur une interview des trois musiciens donc, qui composent The Goon Sax, Lewis le chanteur et guitariste, James le bassiste et Riley la batteuse et chanteuse, que l'exemple de groupes comme les Pastels ou les Raincoats a beaucoup compté pour eux. Alors c'est peut-être des groupes qui vous disent pas grand chose, ils sont nés il y a plus de 40 ans, leur nom est resté confidentiel, mais leur influence a été extrêmement forte auprès des musiciens les plus visionnaires du rock indépendant qui eux ont percé auprès du grand public. Alors, je pense notamment à Kurt Cobain, à Nirvana, dont on parle beaucoup en ce moment pour les 30 ans de l'album Nevermind. Ben oui, depuis qu'on a changé de siècle, on n'en finit plus avec cette mode des anniversaires et des commémorations. Bref, quand Cobain a été de passage dans la ville de Olympia, au sud de Seattle, il a découvert, grâce à une radio locale, ces groupes expérimentaux qui l'ont beaucoup frappé par leur approche pleine d'audace, minimaliste, parfois maladroite, mais jamais banale et toujours intrigante. Il faut dire aussi que Lewis, une des deux voix de The Goonsacks, a des raisons de connaître tout ça, puisque son père n'est autre que Robert Forster, c'est un des cofondateurs des Gooby Twins. Ben oui, les Gooby Twins, un des meilleurs groupes australiens de la période fin 80, début 90, une période extrêmement faste. Alors c'est un, sinon le collaborateur privilégié de PJ Harvey, John Parrish, qui a supervisé l'enregistrement du nouvel album du trio donc The Goonsacks. L'album s'appelle Mirror 2 et ils l'ont réalisé dans un studio de la ville de Bristol, c'est dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans un studio empli de synthétiseurs analogiques qui appartiennent à nul autre que Jeff Barrow, mais oui, Jeff Barrow, le fondateur du légendaire groupe Portishead, qui a contribué à créer ce style qu'on a appelé le trip-hop. C'était à la même époque que Nirvana d'ailleurs, mais dans un tout autre esprit évidemment. Juste avant, eh bien, vous avez entendu un tout nouveau titre, et la voix était féminine, le style a pu vous rappeler là encore le groupe Arcade Fire que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agit d'une chanson toute nouvelle signée par une musicienne américaine qui se fait appeler Torres, hein, comme Torres, comme des tours en espagnol. Alors c'est un parcours intéressant qu'elle a suivi. C'est une enfant adoptée par un couple chrétien baptiste en Géorgie et qui a eu la chance inattendue d'être recrutée par une compagnie discographique basée à Londres, en Angleterre. Elle a changé de ville, elle était là-bas. Elle a rencontré là-bas l'amour auprès d'une femme, une femme artiste peintre. Alors Torres a traversé une période difficile parce qu'elle a été remerciée par son employeur il y a quelques années, faute de succès, mais enfin, elle s'est accrochée. Quand c'était encore possible, elle a donné des concerts de salon, elle a fait des petits boulots, enfin bon, voilà, elle a dû bricoler pour s'en sortir, ajouter à ça le confinement, enfin bref, elle a traversé un long tunnel et elle s'en est sortie bien plus forte qu'avant, voilà, gonflée par le désir de chercher et d'extérioriser la joie dans ses chansons, la joie, voilà, qu'elle éprouve dans son cœur parce qu'elle est très amoureuse. Et ça lui réussit très bien, comme en a témoigné la chanson que vous avez entendue juste avant celle de The Goonsacks, qui s'appelait Don't Go Putting Wishes in My Head, une chanson signée Torres, donc. Alors c'est d'ailleurs un marrant, c'est inattendu, cette chanteuse, vous avez entendu la voix puissante, qui... Bon, quand on écoute les chansons de ses débuts, aimait exposer ses inquiétudes et ses tourments. Il y avait quelque chose de très introverti dans sa musique. Et maintenant, on la voit, elle pose pour illustrer la vignette de son nouvel album avec une guitare électrique dressée entre ses cuisses nues. Une image qui est bien sûr un lieu commun du rock macho, hein, du hard rock, du metal, tout ça. Et évidemment, un symbole phallique extrêmement convenu, évidemment. Voilà. Tout de suite, une autre voix féminine, celle d'une jeune anglaise, la londonienne Ellie Roswell. Elle est la chanteuse d'un groupe qu'elle a formé il y a près de 10 ans avec son camarade Jeff Hoddy, un groupe du nom de Wolf Alice qui a évolué d'un style folk intimiste à quelque chose de bien plus ample et varié, plein d'élan. Le groupe a publié à la fin de l'été un nouvel album, Blue Weekend, sous la supervision de Marcus Drave, c'est un réalisateur artistique anglais qui a déjà fait des merveilles auprès de plein Björk, Coldplay, Arcade Fire, bah nous y revoilà, et aussi Florence and the Machine. Cette chanson, signé Wolf Alice, s'appelle Smile. I'm sensitive. une ambiance à la fois gothique et psychédélique, de ce qui va d'ailleurs souvent bien ensemble. Un nouveau titre, Big Appetite, signé par le légendaire trio de Brooklyn, Liars. Alors on a pu comparer les premiers enregistrements de Liars, qui remontent il y a quelques temps, au début des années 2000, à ceux de Sonic Youth, comme à des groupes de musique industrielle européens. Je pense notamment à l'allemand Einstürzende Neubauten. Disons, pour dire les choses un peu naïvement, que voilà, Liars, comme d'autres groupes, font une musique qui n'est pas toujours facile à écouter parce qu'elle repose souvent sur des dissonances et une approche atonale. Alors, comme ces musiciens que je viens de citer, l'intérêt de Liars, enfin surtout à leur début, c'était de se tenir à un point d'équilibre très stimulant entre, si vous voulez, chaos et lumière. Des déséquilibres rythmiques et harmoniques, avec en contrepoint d'étranges chœurs polyphoniques, parfois, même souvent, à la beauté déconcertante. Il apparaît clairement que, voilà, au fil des années, Liars a simplifié son approche et que ce nouvel album, Big Appetite, a quelque chose de plus immédiatement accessible, enfin susceptible en tout cas de séduire un public plus large. Juste avant, une nouvelle chanson signée par le trio féminin de Portland, nord de la côte ouest américaine, Slater Kinney. Enfin, c'est plus un trio, mais un duo, depuis que la batteuse est partie. Il n'y a plus que la chanteuse et guitariste Corinne Tucker, et puis l'autre guitariste, également chanteuse, Carrie Brownstein. Alors, on la connaît également, enfin, elle est très populaire en tant que comédienne. Elle a joué au cinéma, notamment un rôle dans le film Carol de Todd Haynes, aussi bien que dans des séries. Voilà, ce nouveau titre qu'on vient d'entendre, signé Slater Kinney, s'appelle Worry With You, et il extrait un album qui est paru juste avant le début de l'été, qui s'appelle Path of Wellness. Voici à présent quelque chose de léger et d'estival. Ça tombe bien, l'été est enfin arrivé le 6 septembre, voilà, mieux vaut tard que jamais. Alors peut-être que certains amateurs et spécialistes se rappellent un album resté un classique de punk rock psychédélique californien. C'était sorti en 2010, c'était signé d'un groupe du nom de Waves, avec deux V, je sais pas pourquoi, et qui s'appelait King of the Beach. Un album tellement apprécié d'un certain public, qui aime ça, quoi, que 11 ans plus tard, Nathan Williams, le compositeur, guitariste et chanteur de Waves, a monté une tournée pour réinterpréter intégralement et dans l'ordre les chansons de cet album, voilà, devenu légendaire en quelques années. En attendant, il a enregistré un nouvel album qui s'appelle Hideaway, sous la supervision de David Sitek. Peut-être ça vous dira quelque chose. C'est un musicien new-yorkais dont le groupe TV on the Radio a eu son heure de gloire. C'était le milieu des années 2000. Sitek a conservé la fraîcheur de l'approche de Nathan Williams, qui chante des airs sans prétention à l'inspiration enfantine. Si vous voulez, Wave, c'est un peu comme des Ramones du sud de la Californie, mais il y a dans le son une densité nouvelle, quelque chose de plus organique peut-être. Voici Hideaway, la chanson titre du nouvel album The Waves.
Anything. Very Good Trip sur France Inter.
Qu'on va sûrement entendre à nouveau, en tout cas dans cette émission, je vous le promets, celle de l'Australienne Tori Zeach qui signe son premier album sous le nom d'artiste de Maple Glider. Alors, je ne sais pas grand-chose de son parcours. Il semblerait que ses parents étaient les membres d'une secte chrétienne quelque part dans le sud-ouest de l'Australie. Elle aurait pris la fuite à l'âge de 16 ans, trouvé refuge dans la musique et survécu en menant une vie sac à dos qui l'a menée, entre autres, en Inde. Et puis, elle a fait un passage par Brighton, en Angleterre, avant de retourner en Australie il y a 2 ans, à Melbourne. Et alors, sa voix et ses mélodies ont une magie qui n'appartient qu'à elle. Et voilà, j'en ai entendu, et franchement, ça m'a fait quelque chose. Voilà, je rappelle son nom, Maple Glider, et celui de son album To Enjoy Is The Only Thing. La chanson s'appelait tout simplement A Good Thing. Alors avant de se quitter, eh bien on retrouve le groupe de Jack Antonoff, Bleachers, par lequel j'ai commencé cette émission. Il se trouve que Bruce Springsteen a été tellement emballé par la maquette de cette chanson que Antonoff lui a fait écouter Chinatown, qu'il a insisté pour la chanter en duo avec lui. Enfin, je simplifie, mais enfin, ça s'est passé à peu près comme ça. Chinatown, une chanson extraite de l'album de Bleachers, Take the Sadness Out of Saturday Night, que je ne saurais trop vous conseiller. Là, c'était un duo, vous avez entendu, de Jack Antonoff avec Bruce Springsteen. Évidemment, évidemment que vous l'avez reconnu, Laurent Goumard. Allô? Il est là, Laurent?
Yes. No. OK.
Je t'aime. Océan immense comme mon âme. T'as plein de teintés d'écume. Meule, un amer ménage.
C'est très beau. De qui est-ce?
De moi.
Je vais courir avec toi sur cette plage. Complètement nu.
et lécher le sel de ta peau.
Oh bon.